Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce lundi de Pâques, Franck Ferrand nous propose deux émissions. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Vous allez entendre la première, là tout de suite, ici même, sur Europe 1 bien sûr. Et puis, ce soir, sur France 3, notre numéro spécial Pâques sera consacré aux reliques de la Passion. Nous en avons parlé vendredi. Alors à titre exceptionnel, vous savez que nous avons obtenu l'autorisation de filmer la Sainte Tunique d'Argenteuil, qui a la réputation d'avoir été celle de Jésus de Nazareth. En temps normal, on ne peut l'apercevoir que tous les 50 ans.
C'est donc ce soir à 20h45 sur France 3. Pour le moment, vous nous emmenez donc à New York.
Oui, la première des métropoles urbaines d'échelle planétaire. Elle a été rejointe et rattrapée depuis longtemps, vous le savez, par d'autres villes géantes. Mais si j'ose dire, New York sera toujours New York. Et pour nous guider dans son labyrinthe à angle droit, j'ai convié Nicole Bacharan, que nos auditeurs connaissent bien, et Valérie Lyon. Valérie Lyon est rédactrice en chef adjointe de l'Express en charge des hors-séries. Car l'Express nous propose un magnifique, un foisonnant hors-série sur la grosse pomme. D'ailleurs, nous allons voir tout à l'heure d'où vient ce surnom.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Audrey sur l'origine des appellations des quatre points cardinaux.
Autant dire que notre émission d'aujourd'hui est placée sous le signe de la boussole.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Au début du XVIIIe siècle, un navigateur anglais voguant pour le compte des Hollandais cherche par l'ouest, par le nord-ouest, devrais-je dire, un passage vers l'Asie. Il s'appelle Hudson, Henry Hudson. Nous sommes en 1609 et pour les Hollandais, ce passage, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres nations d'Europe, est essentiel. Hudson voyage à bord de son navire la demi-lune et l'on peut dire qu'un peu comme Christophe Colomb avant lui, un peu comme d'autres navigateurs, il va être arrêté en route à l'approche du continent. Voici ce que nous dit Washington Irving dans « Histoire de New York ». C'était réellement un pays où la vue aurait pu se régaler éternellement des beautés toujours nouvelles et toujours durables. L'île de Manhattan se déployait devant eux comme une douce vision de l'imagination ou l'aimable artifice d'un pouvoir magique. Sur le doux penchant des collines étaient semés, avec une charmante profusion, les cornouillers, les sumacs et les bruyères sauvages, dont les baies écarlates et les fleurs blanches brillaient, éclatantes au milieu du feuillage vert sombre qui les entourait. Et quelquefois, une colonne de fumée, s'élevant çà et là des petites vallées qui s'ouvraient le long du rivage, semblait promettre aux voyageurs fatigués la bienveillante hospitalité d'hommes leur semblables. En guise d'hospitalité bienveillante, les hommes rouges que vont découvrir nos navigateurs ne sont pas très chaleureux. Leur chef va même jusqu'à faire sonner la trompe de guerre et c'est une volée de flèches qui bientôt s'abat sur Hudson, sur son navire. D'ailleurs, ça va faire un mort dans l'équipage. Inutile de vous dire qu'on ne s'attarde pas. On remonte le fleuve. Un fleuve qui porte aujourd'hui le nom d'Hudson, jusqu'à à peu près l'emplacement actuel de la ville d'Albany. On est à 200 km au nord de ce qui plus tard sera New York. De retour en Hollande, Hudson n'aura de cesse de vanter la richesse de cette terre et d'inciter les dirigeants locaux à la colonisation. Il y a là-bas, dit-il, des trésors, des merveilles. Il faut faire fructifier ces terres nouvelles. 15 années vont passer. Et en 1624, la compagnie hollandaise des Indes occidentales, cette compagnie tellement puissante et qui, dans le destin même de l'Occident, jouera le rôle que nous savons, la compagnie hollandaise des Indes occidentales envoie une trentaine de familles coloniser l'embouchure du fleuve, qu'on n'appelle pas encore l'Hudson, toujours pas. Ces familles, ce sont des familles francophones et pour cause, ce sont des protestants. Alors on a toujours l'idée que les protestants ont fui la France au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes en 1640. 1585, mais dites-vous que même à l'époque de l'édit de Nantes, même après 1598, même sous le règne de Louis XIII en l'occurrence, un grand nombre de Français avaient fui le royaume de France où la religion protestante était vraiment très mal vue. Ils allaient s'installer en terre protestante et c'est ainsi donc que ces familles françaises, ces 200-220 familles françaises, vont s'installer à l'embouchure du fleuve. Ils vont fonder ce qu'on appelle la Nouvelle-Hollande avec pour gouverneur Peter Minuit, qui est très connu aux Pays-Bas bien entendu. 2 ans plus tard, Minuit, le gouverneur, achète la petite île dont je vous parlais, de Manahata, une île qui fait 88 km². Ce sont les Indiens de la tribu Lenape qui ont vendu l'île. En vérité, en langue Lenape, Manahata, ça signifie l'île aux nombreuses collines. Et c'est vrai qu'elle est particulièrement accidentée, cette petite île, qui a été achetée pour 60 gulden. C'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Pendant très longtemps, dans les manuels d'histoire au 19e siècle, on disait que ça représentait 24 dollars. Il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, on estime que c'est plutôt de l'ordre de 800 ou 1000 dollars. Mais enfin, peu importe. C'est vraiment l'affaire du siècle. C'est vraiment l'affaire du millénaire. À moins que, il semblerait, lorsqu'on étudie les choses de très près, que la tribu qui a vendu l'île de Manhattan n'en ait pas du tout été propriétaire, elle n'était que de passage ce jour-là, et dans ce cas, on pourrait dire que la transaction s'est faite au profit des Indiens et non pas au profit des Européens. Quoi qu'il en soit, Nieuw Amsterdam en néerlandais, New Amsterdam si vous voulez, est né. La ville compte à ce moment-là vraiment pas beaucoup, hein, quelques centaines d'habitants, 200, 300 au maximum. Et c'est une colonie très pauvre. La compagnie hollandaise des Indes occidentales à l'époque traverse de grosses difficultés financières. Elle n'est pas capable de développer sur place de grands projets. Il y a très peu d'investissements. Quand même, la compagnie a accordé des terres à un certain nombre de riches hollandais, les patrons, les membres de la classe privilégiée, mais disons-le, l'essentiel de la population vit dans la misère, avec au quotidien des épidémies de choléra, des attaques de la part de diverses populations indiennes, des Indiens qui leur refusent totalement de payer tout impôt. Or, évidemment, pour les colons, ces impôts sont la ressource principale. Face aux difficultés, le gouverneur Minuit est impuissant, il sera bientôt renvoyé. On le verra s'enfuir vers les Caraïbes et l'on pense même qu'il est mort en route. C'est désormais la porte grande ouverte à de nouveaux colonisateurs et alors nettement plus professionnels, si je puis dire. En 1664, ce sont les Anglais qui débarquent à New Amsterdam avec 4 navires. Oh, ils ne vont même pas avoir besoin de montrer beaucoup de force, ils n'auront même pas besoin d'employer la violence. La misère sur place est telle que les colons hollandais se rendent immédiatement et en hommage aux frères du roi Charles II, le duc d'York, on va rebaptiser la Nouvelle Amsterdam qui va devenir New York.
Extrait de la bande originale du film de Martin Scorsese, Gangs of New York, une musique signée Howard Shore, c'était Brooklyn Heights. On vous retrouve, Franck Ferrand, sur Europe 1 pour la suite de votre récit sur les débuts de la construction de New York.
New York est donc née. Elle va connaître 119 années de colonisation, de domination britannique. Vous savez comment font les Anglais. Très peu de personnes sur place, de grands administrateurs, de grands négociants. Et l'on essaie de rendre la colonie le plus rentable possible. La mère patrie, la Grande-Bretagne, impose une très forte pression fiscale sur la colonie, tellement forte, avec des taxes à ce point exorbitantes sur les produits importés d'Angleterre, que bientôt la colère gronde et bientôt la révolte dans les rues de New York. C'est la rébellion. La lutte est menée par un certain George Washington. C'est le point de départ d'un mouvement qui aboutira à la déclaration de 1776 et au traité d'indépendance de 1783. Finalement, cette ville de New York va jouer un rôle politique absolument essentiel et un rôle historique dans la naissance de ce qui va devenir les États-Unis. En 1790, New York, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, est la plus grosse concentration urbaine du pays, 33 000 habitants. Alors, évidemment, ça fait sourire, 33 000 habitants, mais n'oubliez pas ce que sont les 13 colonies d'Amérique du Nord-Est à l'époque, c'est vraiment pas grand-chose. Et d'ailleurs, New York est la capitale de l'État de New York et bientôt la capitale du nouveau pays. Le gouvernement fédéral ne va déménager à Philadelphie qu'un petit peu plus tard et ne s'installera à Washington qu'avec la construction de la Maison Blanche. On construit la Maison Blanche de 1792 à 1800 et c'est donc en 1800 que Washington devient la capitale du tout nouvel État américain. New York, à ce moment-là, n'est plus capitale. Il va lui falloir s'inventer une autre raison d'être et de se développer. En ce début du 19e siècle, on est en train d'agrandir la ville. C'est l'époque, vous savez, du quadrillage. C'est là qu'on installe ces espèces d'avenues que l'on compte. C'est très, très facile, d'ailleurs. Enfin, très facile. Façon de parler. Ça paraît très rationnel. Quand on est sur place, ça devient nettement plus difficile. Mais en tout cas, on bâtit à l'époque 2028 blocs, comme on les appelle. C'est un véritable boom immobilier avec la naissance de véritables fortunes immobilières dès cette époque. Un négociant en fourrure du nom de John Jacobs Astor va devenir propriétaire peu à peu parce qu'il est très doué, il fait toutes sortes d'opérations assez brillantes. Il devient très vite propriétaire d'une grande partie de l'île et c'est une île et une ville en perpétuel mouvement avec d'ailleurs, ce qui est intéressant, on connaît ça dans toutes les capitales du monde et depuis bien longtemps, mais tout de même un mouvement des quartiers chics beaucoup plus important, beaucoup plus rapide qu'ailleurs. C'est-à-dire que l'endroit où il faut habiter évolue sans cesse. Et puis alors, à New York, on n'hésite pas à démolir, à faire table rase, à reconstruire de grandes demeures en fonction des modes, tout simplement, et des envies. C'est aussi, vers le milieu du 19e siècle, la grande époque de l'immigration. Or, le point d'entrée de ces millions de migrants qui arrivent essentiellement d'Europe, le point d'entrée sur le territoire américain, c'est New York, justement. N'oubliez pas la grande famine en Irlande, qui est conséquence de la maladie de la pomme de terre qui avait profondément marqué l'Irlande et affaibli des fermiers déjà très pauvres. Un quart, on a l'occasion de le dire déjà, mais ça paraît fou, un quart de la population irlandaise va quitter l'Irlande pour s'installer aux États-Unis et donc va passer, au moins passer par New York. Une grande partie de la population va d'ailleurs s'arrêter à New York, bien entendu. Les Irlandais iront aussi au Canada, c'est vrai, mais en moindre proportion. Et puis en Australie, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Ce qui veut dire que un tiers de la population de New York en 1850 est irlandaise. Je dis la population de New York, ça a beaucoup cru. On est déjà à 500 000 habitants en 1860. Les immigrants seront 105 000, dont presque la moitié d'Irlandais. Il y a aussi beaucoup d'Allemands, il faut le dire. Il y aura un peu plus tard des Polonais en quantité, enfin, etc. On arrive de toute l'Europe. Il y aura les Italiens aussi, mais encore un peu plus tard. Ces immigrés arrivent au Castle Garden, qui est une salle de spectacle qui a été totalement reconvertie en centre d'accueil. On est là vers le sud de l'île de Manhattan. Ce sont des gens pauvres, souvent peu cultivés. Il y a des Irlandais qui ne parlent que le gaélique. Ils sont pour la plupart catholiques, et ça les oppose à la population de substrat protestante, bien entendu. Les conditions de vie pour ces migrants sont souvent très très difficiles. On a beaucoup d'ouvriers dans le secteur du bâtiment, bien entendu, dans celui des chemins de fer également, et du textile. Bref, les grandes industries de développement d'un pays neuf, tout simplement. Il y en a beaucoup, ne l'oublions pas, qui seront des domestiques, notamment dans la population allemande. Ils s'installent souvent dans les quartiers les plus défavorisés, Five Points, dans le Lower East Side, ou Hell's Kitchen, au sud-est de Central Park, où se regroupent essentiellement les ouvriers, et l'on voit des conditions de vie terribles. Alors, un alcoolisme endémique, bien entendu, c'est au moins aussi terrible que ce qu'on peut voir à Londres à la même époque, et Paris n'est pas loin derrière, je vous rassure, le typhus, le choléra, des épidémies de tuberculose, etc. Mais néanmoins, nous sommes bien à pied d'œuvre à New York. C'est le début du fameux rêve américain avec de véritables progressions dans l'échelle sociale. Les deuxièmes générations notamment vont accéder à des postes de policiers, de postiers, de conducteurs de tramway, etc. Il faut pas oublier que dès 1880, le maire de New York sera irlandais. Vous me direz, avec la proportion d'Irlandais dans la ville, ça a dû être peut-être plus facile pour lui. À la fin du 19e siècle, on va dire jusqu'au milieu du 20e siècle, les Irlandais sont d'une façon plus générale très représentés et même surreprésentés dans la fonction publique, avec tout ce que ça suppose comme remugle, comme mouvement, comme violence également. Il y a des règlements de compte, des activités illicites. Je ne sais pas si vous aviez vu le film Gangs of New York, où on voyait ça, qui était d'une violence incroyable. Il ne faut pas oublier d'ailleurs le rôle de la guerre de sécession, on en parlera avec Nicole Bacharan dans un instant. En 1863, on a 4 jours d'émeute, 1200 morts, 8000 blessés, c'est d'une violence considérable. Il ne faut pas oublier les attaques racistes. Les Noirs sont la cible des Irlandais, qui les voient un peu comme la cause de la guerre de sécession. Il y a des bureaux de recrutement de cette guerre de sécession. On les incendie, on les pille d'une façon générale. C'est l'anarchie, c'est le désordre. New York est en train de devenir un lieu de cauchemar.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
De Broadway à Central Park, du pont de Brooklyn au Bronx, Franck Ferrand, vous nous racontez cet après-midi l'histoire de la construction de New York.
C'est tout le paradoxe new-yorkais au tournant du XXe siècle. Cette ville s'est faite par l'immigration. Elle a même été une ville essentielle d'immigration, peut-être la ville qui aura connu les plus fortes immigrations de toute l'histoire de l'humanité. Et en même temps, elle devient de plus en plus opposée aux immigrés. Évidemment, on a envie de dire que c'est un processus assez classique, assez normal. On va renforcer considérablement les mesures de sécurité et l'on va installer sur l'île d'Ellis Island le fameux centre de tri de toutes ces populations qui affluent vers les États-Unis. Alors, c'est extraordinaire parce que ces migrants sont remplis d'un espoir extraordinaire lorsqu'ils voient apparaître à l'horizon Miss Liberty, la statue de la liberté offerte par la France aux États-Unis. C'est évidemment pour eux sans doute le début, enfin c'est le début d'un rêve, mais avant ce rêve, il va falloir passer par Ellis Island. Plus de 16 millions de migrants italiens, polonais, grecs, serbes, hongrois, etc. transiteront par cette île entre 1892 et 1954, avec à chaque fois un examen médical. Il faut savoir qu'il y a une liste de 60 maladies physiques et mentales qu'il faut surveiller. On voit déjà poindre la paranoïa américaine au passage. Et puis, avec des entretiens, les autorités ont des bureaux, alors ça fait comme des espèces de petites cases, où l'on passe à la chaîne pour passer des entretiens. On s'assure que chacun a bien sur lui au moins 25 $, ce qui est une somme tout à fait importante à l'époque, en tout cas pour des personnes modestes. Disons les choses, il y a très très peu de candidatures qui sont rejetées puisqu'on estime que c'est moins de 2% des personnes qui passent par Ellis Island qui doivent reprendre le bateau dans l'autre sens. En 1900, New York abrite 3,5 millions d'habitants. Elle est à l'époque la ville la plus peuplée du monde après Londres. Elle va bientôt devenir d'ailleurs, dans les années qui viennent, elle va devenir la ville la plus peuplée du monde. Or, n'oubliez pas que nous sommes sur une île, on est à Manhattan. Alors certes, autour de l'île, on voit s'étendre les quartiers, on va y venir tout à l'heure. Mais sur Manhattan même, puisqu'on n'a pas de place pour s'étendre, eh bien on va s'étendre en hauteur. Ce qui a permis cette extension vers le haut, vers le ciel, si je puis dire, c'est l'invention de Elisha Graves Otis en 1857. Otis, ça vous dit quelque chose? Évidemment, c'est l'invention de l'ascenseur. Grâce à l'ascenseur, on va pouvoir faire des immeubles de plus en plus hauts. En 1894 est construit le premier gratte-ciel de New York, le Bayard Condick Building, qui a été imaginé par Louis Sullivan, un diplômé de l'école de Chicago, une école très en avance, très en pointe, notamment en matière d'architecture et de réalisation de buildings. Ce Bayard Condick Building est assez classique, il faut le dire. J'ai une photo là sous les yeux. Il est de style vaguement vénitien, on dirait néo-byzantin à l'anglo-saxonne, si l'on peut dire. Il mesure 49 mètres de haut sur 13 étages donc, et il est situé au 65 Bleecker Street. Évidemment, la main d'œuvre ne coûte pas cher, ce qui explique aussi la floraison des buildings, parce qu'avec toute cette immigration massive, on a dans le bâtiment vraiment des ouvriers pour rien du tout. 1902, c'est la construction du mythique Flatiron Building, qui lui est à l'angle de Broadway et de la 5e avenue. Et alors là va commencer cette espèce d'émulation. C'est à qui va construire le building le plus vaste, le plus haut et bientôt le plus luxueux, le plus orné. Il y a une volonté de puissance qui s'exprime là, bien entendu. En 1913, on entre dans une nouvelle ère, si je puis dire, avec le Woolworth Building qui est réalisé par Cass Gilbert. Il monte celui-là, il culmine à 241 mètres, ce sera le record jusqu'à la construction en 1931, vous savez bien sûr, de l'Empire State Building. 57 étages quand même au Woolworth, un style néo-gothique un peu plus agressif, un style qu'on pourrait appeler tout simplement new-yorkais, car c'est un véritable style qui est en train de naître et qui paradoxalement sera repris plus ou moins et avec des variantes par les soviétiques à l'époque des constructions du néo-réalisme. Vous savez, quand vous voyez toutes les bandes dessinées, les Marvel, etc., elles ont ce style, c'est vraiment le style, j'allais dire aérien, en tout cas élancé d'un New York en plein ciel qui est en train de se fonder. L'Empire State Building, 102 étages, 381 mètres, voit donc le jour en 1931. Quand je dis qu'il voit le jour en 1931, en vérité, il avait vu le jour bien avant. Il n'est inauguré qu'en 1931, mais entre-temps, il y a eu la crise de 1929. Et alors là, on va se mettre à bâtir d'une façon tout à fait différente. Les buildings de New York ont longtemps fait rêver la planète entière, et notamment en Europe, bien entendu. C'est peut-être un tout petit peu moins le cas aujourd'hui, quoique il me semble qu'ils sont toujours une source d'admiration, de vertige d'une certaine manière. Et même si les événements du 11 septembre 2001 ont eu tendance à nimber, si je puis dire, l'aura de New York de quelque chose d'un peu tragique, de nettement moins joyeux et de nettement moins optimiste qu'auparavant, ces buildings restent une source d'émerveillement pour la planète entière. Alors tout le monde ne les a pas toujours aimés. C'est le grand écrivain Henry James qui disait « On a l'impression que le monstre, il parle de New York, que le monstre croît et croît sans cesse. La ville ressemble à un peigne cassé, les dents en haut », disait-il. C'est vrai que vu d'un peu loin, ça peut donner cette idée-là. La critique en architecture Ada Louise Huxtable disait « Pour le reste du monde, les gratte-ciels de New York ont encore leurs rêves et leur poésie. Ils continuent à intimider et à émerveiller dans un perpétuel spectacle céleste. Nicole Bacharan et Valérie Lyon sont avec nous. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Grâce à vous, nous allons faire une promenade dans New York et dans ses alentours immédiats, parce que moi j'ai beaucoup parlé de Manhattan, mais Dieu merci, New York ne se résume pas à Manhattan.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu.
Serge Gainsbourg sur Europe 1 avec un extrait de son album Gainsbourg Percussion de 1964. On écoutait New York USA, au cœur de la grosse pomme et l'histoire de sa construction avec vous, Franck Ferrand, et avec vos invités. L'historienne spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan, co-auteur du livre Les secrets de la Maison Blanche paru aux éditions Perrin, et Valérie Lyon, rédactrice en chef adjointe en charge des hors-séries du journal L'Express. Et le hors-série sur New York est actuellement en kiosque.
Il est très beau, Valérie Lyon, votre numéro spécial de l'Express consacré à New York. On se promène à travers les pages comme à travers la ville. J'imagine que votre intention était de donner l'envie au lecteur d'y aller, mais on a presque envie de dire que la visite se suffit à elle-même.
Ah non. C'est donner au lecteur les clés, voilà. Les clés de la ville pour la découvrir peut-être autrement qu'en simple touriste, pour la découvrir dans toutes ses facettes, son histoire, ses contradictions.
Son mythe. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la grosse pomme, cette ville de New York?
Alors, ça viendrait, c'est Fitzgerald qui aurait le premier utilisé cette expression dans un article d'ailleurs hippique, en fait, dans les années 20. Et l'expression viendrait des garçon d'écurie afro-américain de la Nouvelle-Orléans pour qui le rêve ou le fantasme suprême, c'était la grosse pomme, c'était New York.
Quoi. Oui, c'est-à-dire que c'était le fruit défendu, c'était quelque chose de... Alors, avant de devenir cela, New York a été quand même un trou paumé, disons-le, Nicole Bacharan. C'était vraiment pas grand-chose. Du temps des Hollandais, n'en parlons même pas. C'est une toute petite colonie, minable. Les Anglais mettent la main dessus. Et alors là, quand même, avec eux, ça prend un peu d'extension. Mais il faut attendre la lutte pour l'indépendance pour voir New York devenir une ville digne de ce nom.
Oui, une ville digne de ce nom, et vous le disiez, une ville qui a joué un rôle important dans cette guerre d'indépendance, mais un rôle très assez tragique, à dire vrai, parce que ça a commencé, comme toute l'indépendance américaine, en 1776, et le 9 juillet 1776, donc quelques jours après la déclaration d'indépendance, il y a eu dans un parc de New York une lecture publique de cette déclaration, à la suite de quoi on a déboulonné la statue du roi d'Angleterre.
C'est intéressant parce qu'on a toujours à l'esprit Boston, évidemment Philadelphie et puis Washington, et on aurait presque tendance à mettre New York entre parenthèses. C'est bien là que ça s'est passé quand même.
Ça s'est passé là, mais ça s'est mal passé. C'est pas très glorieux en fait. C'est quand même l'histoire d'une défaite. Ça a été une vraie débâcle. Il y a eu une bataille à Long Island, donc entre l'armée britannique, l'armée de la monarchie et ce qu'on appelait l'armée continentale. Et c'était quand même pas mal de soldats de fortune, mal équipés, sans uniforme. Et ils ont pris une raclée terrible. Ils en ont pris une seconde peu après à Fort Washington, qui était dans les environs. Et les Anglais sont entrés dans New York et ils l'ont occupé jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Jusque dans les derniers jours. Et ça a été une occupation vraiment dure.
Ce qui est étonnant, c'est que New York avait tout pour devenir la ville riche, la ville des patriciens américains, si je puis dire. Et ça n'est pas le cas. C'est à Washington, c'est à Boston que ça s'est fait. New York est plutôt une ville qui restait populaire, une espèce de grand creuset, un lieu d'industrie, de développement.
Oui, pour les patriciens, comme vous le dites très justement, d'ailleurs, c'est vraiment l'expression qu'on emploie aux États-Unis, et de Boston, où la bourgeoisie de Washington, New York, c'est quand même vulgaire.
Oui, c'est ça.
Ça
voilà.
A toujours été vulgaire, nouveau riche, bruyant, de mauvais goût, avec des gens pas très recommandables, prêts
de
à faire fortune à tout prix.
De moins en moins recommandables, parce que l'on voyait arriver par navires entiers, toutes les cales et les troisièmes classes étaient remplies de ces migrants. Qu'est-ce qui les attirait spécialement à New York? Pourquoi venaient-ils? Alors, on a vu la famine en Irlande, etc. Mais quelle était la lumière, si je puis dire? Qu'est-ce qui les attirait, là?
C'était la porte d'entrée vers ce que vous nommiez très justement le rêve américain.
Cette statue
qui est née très tôt, bien avant même ces grandes, grandes vagues d'immigration. La première chose qui les poussait vers les États-Unis, c'était la misère, c'était les pogroms, c'était les persécutions religieuses de toutes sortes. Mais c'était quand même, je trouve, c'était des gens quand même vraiment très courageux. Il y avait quand même pas mal de navires qui passaient à fond de cale, par le fond, je veux dire, et les passagers, eux, à fond de cale. Et arriver à New York, c'était exaltant, on le voit dans beaucoup de films. Je pense notamment au film d'Elia Kazan sur cette arrivée à New York qui vraiment vous tire les larmes. Mais aujourd'hui, il y a un très très beau musée à Ellis Island, et qui est pas un musée hagiographique. Ça vous décrit pas une Amérique accueillante et des immigrants très heureux. On vous montre que c'était difficile, que c'était dur, que les gens avaient peur de se faire refouler. Et sur un des murs du musée, il y a inscrit une citation d'un immigrant italien que j'ai toujours retenu, parce que il dit « Je suis venu en Amérique parce que je croyais que les rues étaient pavées d'or », donc le rêve de la fortune.
C'est l'Eldorado, en fait, on recherche.
J'ai découvert qu'elle n'était pas pavée d'or. Elle n'était pas pavée du tout, et ça allait être à moi de les paver.
Oui,
voilà, c'était ça.
En attendant l'or, il y a une somme magnifique sur New York qui s'appelle Gotham. C'est une sorte de biographie de la grosse pomme qui est signée par l'historien Mike Wallace. Eh bien, vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé, ce Mike Wallace.
Il nous a accordé une longue interview et il nous a replongé dans toute cette histoire de New York et dans ce qui fait cette particularité de cette ville quand même très progressiste. progressiste, très d'un point de vue social, en fait, qui, de par cette population justement ouvrière, immigrée, c'est une ville qui a défendu des droits sociaux, les a mis en place, et qui, en même temps, c'est la ville de Wall Street.
Mais c'est ça.
C'est la ville de l'argent.
C'est un énorme paradoxe.
Voilà,
ça, quand
c'est
même.
La ville du capitalisme moderne, de tous les excès financiers. Et donc, c'est vraiment, il y a cette tension extraordinaire entre cette espèce de modernisme social et puis ces excès de la finance, symbolisés aussi par les buildings dont vous parliez tout à l'heure.
Vous avez l'impression quasiment d'une anarchie au milieu du 19e siècle, Nicole Bacharan. Je parlais de Gangs of New York tout à l'heure. C'était vraiment la rue qui se bat contre une autre rue, d'une certaine manière.
Et pour autant que je sache, ce film extrêmement violent est extrêmement juste. En même temps, on y voit, comment dire, la corruption politique par cette machine issue du Parti démocrate que l'on appelait Tammany Hall et qui était vraiment aux mains des Irlandais. Mais bon, j'ai rien du tout contre les Irlandais, mais ceux qui tenaient ça le faisaient quand même par les pires méthodes. Et c'est vraiment ces guerres de gangs. Vous nommiez le quartier Five Points. C'était là que ça se passait. C'était très violent, très dangereux.
Il reste des vestiges. On peut voir des choses aujourd'hui encore.
Il reste encore deux, trois choses. Mais c'est vrai que le Lower East Side, il y a encore ces petits brownstones qui sont pas tout à fait de cette époque aussi violente, mais enfin, on peut assez bien imaginer.
Des immeubles de briques
sombres. Voilà,
sombre,
les petits immeubles de briques avec les petites, vous savez, les petites portes en fer, les caves en dessous, qui sont accessibles déjà de la rue. C'était des quartiers, ben, vous le disiez d'ailleurs, où il y avait vraiment des maladies, une très très grande pauvreté. C'est une vie assez sauvage.
Ce massacre des Noirs en 1860. Qui a été terrible.
Oui, ce qu'on appelle la semaine de la conscription, puisque la guerre de sécession était là dans sa troisième année. C'est juste après la bataille de Gettysburg, qui est la bataille la plus meurtrière de la guerre, 51 000 morts en quelques jours. On est dans des chiffres inimaginables. Les gens n'en peuvent plus. Lincoln veut rendre la conscription obligatoire. À New York, on attend les gens à la sortie du bateau. D'ailleurs, ce qu'on voit dans Gangs of New York, pour les recruter direct et les envoyer dans l'armée. Et c'est vrai que ce sont les émeutes raciales les plus violentes de l'histoire des États-Unis. Et pourtant, vous savez qu'au XXe siècle, il y en a eu pas mal. Il y a eu beaucoup de morts, mais rien de comparable.
Je vous écoute attentivement, mais ça ne m'empêche pas de feuilleter le numéro spécial de l'Express. Il y a notamment, dans cette très longue interview, assez brillante, pleine de fulgurance, si je puis dire, des parties chronologiques, et on y rappelle qu'en 1870 a été bâtie la première grande gare, le Grand Central, qui a donné à New York sa vocation en quelque sorte économique. Le train a joué un rôle essentiel, ce qu'on a peut-être parfois tendance à oublier.
Oui, parce que le train, c'était la possibilité de venir à New York, mais surtout la possibilité de commercer. C'est une grande capitale commerciale.
Le train et le canal de l'Érié pour évidemment apporter par bateau et les marchandises et les diffuser dans le reste du pays. Et c'est ce qui a fait que New York est devenue effectivement une plateforme, en fait, une plaque tournante commerciale, industrielle.
Et le pont de Brooklyn, il y a le tramway, il y aura plus tard le métro 1904-1906, enfin à peu près en même temps,
un tout petit peu
après ceux de Londres et de Paris. Donc une immense cité dans laquelle, cité, voulais-je dire, dans laquelle on arrive néanmoins à se mouvoir. Le logement est une chose quand même problématique à New York.
Toujours.
Il l'était au 19e siècle, il l'est toujours aujourd'hui,
oui,
Nicole Bacharan.
C'est extrêmement cher. C'est vrai que quand on évoque cette vente de Manhattan pour peut-être quelques centaines de dollars, et qu'alors aujourd'hui, impossible d'acheter même un placard à balai pour beaucoup de milliers de dollars, je crois que ça date de l'expansion de la ville vraiment au 19e siècle. Et depuis, on a toujours eu du mal à se loger à New York et ça a toujours été très cher. Je crois que l'époque où il fallait acheter des appartements à New York, c'était à la fin des années 70, quand la ville était au bord de la faillite. Là, on pouvait acheter des appartements qui aujourd'hui sont à des prix inatteignables.
Et en même temps, quand on entre dans un certain nombre de ces buildings qui aujourd'hui sont les sièges de compagnies de banques ou parfois de grands hôtels, etc., on a l'impression un peu de place perdue. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre, d'un côté, ces tout petits appartements extrêmement peu pratiques, on vit pas toujours très confortablement à New York, et à côté de ça, des lieux et des espaces gigantesques, complètement même pharaoniques, le terme n'est pas trop fort.
Oui, vous avez des choses affreuses comme la Trump Tower, la tour de Donald Trump, une énorme chose dorée, terrifiante. Mais d'une façon générale, puisque l'espace manque tellement à New York, l'espace, c'est absolument le symbole du luxe. C'est ce qu'on achète le plus cher.
Et voilà, c'est pour ça.
Et la dernière mode du moment, ce sont des appartements situés dans les gratte-ciels très très hauts, sans vis-à-vis, entièrement en fenêtre, avec des salles de bain immense. La salle de bain, bon, on aime tous avoir une salle de bain confortable, mais là, vous avez des salles de bain de 30 ou 50 mètres carrés parce qu'il n'y a pas d'espace à New York. Vous prouvez votre richesse avec cet espace.
Évidemment. Cette folie des gratte-ciels, des buildings qui partent à l'assaut du ciel, nous en avons dit un mot. Je n'ai pas encore parlé de celui qui va révolutionner l'architecture new-yorkaise. C'est Robert Moses. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
A little town blues are melting away. I make a brand new start of it in all New York. If I had back it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Elle était Francine Evans dans le film musical de Martin Scorsese en 1977. New York, New York, on écoutait Liza Minnelli sur Europe 1. Au cœur de l'histoire et au cœur de la ville de New York, avec vous Franck Ferrand et avec vos invités, l'historienne spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan et Valérie Lyon, rédactrice en chef adjointe chargée des hors-séries de l'Express et de celui de New York déjà disponible.
Mais Valérie Lyon, ce qu'on voit quand on se promène aujourd'hui à New York, c'est en grande partie une ville rebâtie dans les années 30, 40, 50. Et celui qui a été le gourou de cet urbanisme, c'est Robert Moses.
C'est ça, rebâti et redessiné par Robert Moses, qui a vraiment incarné la modernité, une vision de la ville où la voiture a toute sa place. Donc il a créé d'immenses parkways, notamment le long de l'Hudson. Il a créé une autoroute qui a fait une véritable saignée dans le quartier du Bronx. Il a aussi créé tous les grands ponts de New York, notamment le Triborough Bridge, enfin les ponts les plus majestueux, les plus impressionnants de New York. Et on parlait du logement tout à l'heure, il est aussi à l'origine de ces grands ensembles de logements, un peu version Le Corbusier en avance.
Ça, c'est la cité radieuse.
Voilà, pour loger, justement essayer de loger tous ces immigrés, de les garder au centre de la ville, parce qu'il n'y a pas eu à New York la même fuite vers les banlieues que dans les autres villes américaines. Et donc Robert Moses a été l'artisan de ces ensembles de logements, des tours qui sont assez sinistres hein, quand on les regarde aujourd'hui. Très uniforme,
et avec
très
ces
monotone.
Espèces d'autoroutes qui pénètrent jusque dans le cœur de la ville. Ça, c'est quand même terrible.
Comme dans le Bronx, où en fait, il a mené des expropriations. Des dizaines de milliers de personnes ont été expropriées pour faire des autoroutes à quatre voies. Ça a été quelqu'un... Il était à la fois visionnaire, parce que dans les années 30-40, il a imaginé ce que serait la ville de l'après-guerre, finalement. Et il était aussi très autoritaire. Et en fait, il a notamment... Il est resté, en fait, dans les années 60, hein, il a occupé des postes, il a influencé l'urbanisme de New York en gros des années 30 aux années 60. C'est une longévité incroyable. Et il n'a pas vu ensuite l'évolution de la ville et la volonté des gens de préserver les villages, entre guillemets, de New York, que lui voulait raser pour y faire passer des autoroutes.
Et la ville n'a jamais perdu sa structure quadrillé, en fait. Ça a été fondé dès le début du 19e siècle.
Oui, on s'y une est... fois pour toutes. Oui. Il y a certainement quelque chose qui a à voir avec l'éthique protestante. L'ordre et la beauté, c'est un peu la même chose. Et quelque chose de facile à comprendre, de bien équilibré. Mais, vous le disiez, c'est pas toujours aussi simple. Dès qu'on descend en dessous de la 14e rue, on peut se perdre très facilement.
Oui, c'est vrai. On s'y perd complètement. Enfin, je pense que quand on habite un certain temps à New York, on finit par
oui.
se... par intégrer ce schéma, mais ça n'est pas évident. De même que le métro, d'ailleurs, c'est impossible de s'y repérer.
C'est compliqué le métro quand on arrive pour la première fois à New York, puisque sur un quai de métro, il peut y avoir plusieurs destinations différentes, ce qui pour un Parisien est totalement perturbant. Donc il faut faire très très attention. Par contre, le métro, il circule tout le temps.
Il circule tout le temps.
Ça, c'est extraordinaire.
Il est propre, il y a la clim.
La ville ne s'arrête jamais. La ville qui ne dort jamais.
C'est vrai.
C'est Simone de Beauvoir qui disait, il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil inutile. Et c'est vrai que c'est cette espèce de fébrilité impressionnante qu'on adore, ça peut même devenir comme une drogue, ou qu'on déteste, j'allais dire, suivez mon regard. Mais c'est très compliqué, cette ville qui ne s'arrête jamais quand même.
C'est vrai qu'il y a une énergie de la ville qui vous porte, et au moment où vous n'arrivez plus à suivre, ça vous épuise. Donc de temps en temps, il faut quitter New York. Mais c'est vrai, c'est banal de le dire, mais c'est tellement juste. C'est-à-dire le côté, la ville qui ne dort jamais, les gens qui sont toujours entreprenants, qui ont toujours envie de faire des choses. Je veux dire, quel que soit votre intérêt, je ne sais pas, moi, si vous êtes un footballeur amateur, n'importe quoi, et quel que soit le niveau de votre activité, c'est-à-dire professionnelle ou vraiment, et tout ce qui est entre les deux, débutant ou pas, vous allez trouver un groupe de gens hyper motivés pour pratiquer ça avec vous.
Avec une population complètement loufoque, il faut dire, beaucoup, beaucoup de gens dont on aurait tendance à dire qu'ils sont un peu névrosés quand même, enfin, ça fait partie du charme des lieux sans doute, des espaces verts. C'est très important, ils sont essentiels.
Notamment Central Park, qui est évidemment le poumon vert de la ville et qui date aussi à peu près de...
Qui fait comme une grosse tache verte en plein milieu.
Mais qui est indispensable, qui est les New Yorkais, s'ils n'avaient pas Central Park, j'aurais beaucoup de mal à vivre, à respirer, parce qu'il y a une densité urbaine terrible. Central Park, il faut voir que dans les années 70, qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été l'autre période noire de la ville, au XXe siècle, dans ces années que nous, on a appelées les années des glingues, où c'était une véritable jungle urbaine, on n'osait pas aller dans Central Park, on ne se promenait pas en bordure de Central Park,
etc. L'épicentre de la drogue,
etc. Donc il y a eu une reconquête qui s'est faite à travers d'abord Central Park, évidemment, et puis toutes les berges, et ça c'est les dernières 10 années, en fait, les berges de l'Hudson, les quais qui ont été réaménagés, et les New-Yorkais ont redécouvert que New York était une île, d'une certaine façon.
Ça devient très clean, New York. À quel moment est-ce que ça bascule? Quand la ville redevient-elle beaucoup plus sûre?
Rudy Giuliani, qui est maire à partir de 1992, si je ne me trompe pas. Et qui a, comme le disait Valérie, reconquis la ville. Alors avec des méthodes dures, c'est pas forcément toujours agréable. C'est les fameuses thèses de la tolérance zéro, c'est-à-dire que le principe était que, par exemple, on ne passait pas quelqu'un qui ne payait pas son ticket de métro, enfin son jeton de métro. D'ailleurs, ben c'est quelqu'un qui faisait ça, ça voulait dire que il avait certainement d'autres mauvaises intentions, la moindre vitre brisée, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous promenez dans Harlem avec des familles qui poussent le bébé en poussette le soir. Enfin, c'est incroyable.
Alors, il n'y a pas que Manhattan et que le sud de l'île. Il y a des quartiers, évidemment. New York, c'est aussi le Bronx, c'est aussi le Queens, c'est aussi... Quels sont les grands secteurs, si je puis dire, Nicole Bacharan?
Vous savez, moi, je suis une fille de Manhattan. C'est vrai que ça rend stupide. C'est-à-dire qu'on considère que c'est le centre du monde et qu'il n'y a pas grand-chose au-delà.
Broadway. Il faut dire ce que c'est que Broadway, d'ailleurs.
Ah oui, Broadway, c'est assez attachant. Vous disiez, tout est quadrillé, perpendiculaire, mais il y a une grande avenue qui traverse en diagonale, donc Broadway, et qui date des Indiens. C'était une piste de ces tribus indiennes dont on parlait au début et qui descendait jusqu'à ce fameux petit parc qu'il y avait en bas, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Bowling Green, vraiment tout en bas, mais aujourd'hui Broadway n'arrive pas jusque là. Au-delà de Manhattan, excusez-moi, il y a Brooklyn qui devient extrêmement à la mode. Ça a été longtemps un quartier modeste.
Il faut situer Brooklyn par rapport.
Brooklyn, c'est légèrement à l'est, de l'autre côté du pont de Brooklyn. Voilà. Exactement. Je me souviens d'ailleurs d'une soirée au BAM, le Brooklyn Academy of Music, qui est un théâtre très célèbre, et c'était tellement conceptuel. J'avais l'impression d'être dans une grotte parce que les murs étaient comme à Lascaux, je sais pas, mais beaucoup plus décatiques, ça. Et je me disais, est-ce que c'est en plein travaux ou est-ce que c'est un concept? Et ça me paraît tellement typique de ce coin de la ville. Et Brooklyn est devenu très, très, très à la mode. Et très cher, du coup. Les logements sont très chers.
C'est un repère d'artistes, de créateurs. Il y a eu une gentrification, comme on dit, très, très forte.
C'est le coin bobo de New York. Totalement. C'est tenté que la ville entière ne soit pas bobo, du reste.
Oui, mais Brooklyn, encore plus, parce que Manhattan, c'est quand même aussi le quartier de la finance,
oui,
etc.
Voilà, c'est ça.
Donc,
nous, il y a un quartier.
Voilà. Et puis, nous, il y a un quartier qu'on fait découvrir, enfin, un district même, hein, parce que c'est plus qu'un quartier, c'est un district, c'est le Queens.
Le Queens, oui.
Notre correspondant aux États-Unis, Philippe Coste, nous propose vraiment là une balade dans le Queens, qui est l'un des plus grands district de New York, le long de la ligne 7 de métro, qui est en fait une ligne qui vous fait voyager dans le monde entier. Parce qu'en prenant cette ligne de métro et en pénétrant dans le Queens, vous allez aller dans le quartier grec d'Astoria, vous allez aller dans Little India, vous allez aller dans Little Odessa, le quartier russe, vous allez découvrir des temples thaï, vous allez... Enfin, c'est extraordinaire, c'est vraiment un concentré de planètes dans ce Queens qui reste encore assez méconnu par rapport à Manhattan, Brooklyn.
Il est difficile de parler de New York et de Manhattan sans évoquer Woody Allen, bien entendu. Il y a toute cette poésie, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, une poésie d'Europe centrale, poésie juive de New York?
Bien sûr, c'est très très présent. C'est très présent à Brooklyn, puisqu'il y a le quartier des juifs orthodoxes. Mais c'est très présent à Manhattan également. C'est très présent à travers la cuisine, notamment ces odeurs de pretzel qui grillent au coin des rues. Vous savez, ces petits pains tortillés qui étaient vraiment une spécialité. C'est une des spécialités d'Europe centrale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs à Manhattan, que le vendredi soir, il y a beaucoup de boutiques, de banques, de bureaux qui sont fermés. On vit un petit peu dans ce rythme des traditions juives.
Si vous regardez la série Suits, vous avez également les bagels qui sont fondamentaux d'une certaine manière.
Avec une concurrence entre le bagel new-yorkais et le bagel canadien, montréalais en fait.
Oh, c'est pas le vrai.
Alors là, il y a un grand débat entre le bagel de Montréal et celui de New York. Nous, on donne quelques adresses aussi, puisque dans ce numéro spécial, on donne aussi envie aux gens d'aller justement déguster toutes ces cuisines du monde, des délicatessen et aussi les fameux bagels ou encore le cronut qui lui a été inventé par un Français.
On s'aventure moins dans le Bronx, hein, paradoxalement.
Oui, mais le Bronx devient un lieu, on parlait d'immobilier tout à l'heure, le Bronx devient un lieu où les gens vont se loger parce que c'est un des rares quartiers encore accessibles en termes d'immobilier.
C'est vrai que mais la réputation du Bronx, je pense que ça va se faire, mais ça a du mal à dépasser la période vraiment terrible où c'était juste un coupe-gorge. C'est très très dur.
Il y aurait énormément à dire sur New York. Je crois que le mieux, c'est de feuilleter ce numéro spécial très important. Hein. Ça représente combien de pages? Je ne les ai pas comptées.
212 pages. Et à la fois une balade dans les quartiers, comme vous le disiez, des rencontres aussi avec les New-Yorkais qui comptent, qui font la ville, avec les Français aussi, qui vivent à New York ou ont été fascinés par New York. Et on parlait des buildings tout à l'heure. On a une double page consacrée à Sempé. Et Sempé a magnifiquement dessiné, évidemment, New York. Et il l'a aussi très bien raconté quand il parle des buildings. Il dit à New York, on se sent à la fois minuscule, écrasé par ces buildings, et important. Parce que dès qu'on monte dans un building pour un rendez-vous et que d'un seul coup on est au 70e étage, on a l'impression de dominer la ville et le monde vous appartient. Donc j'aime beaucoup cette... on est à la fois minuscule et important à New York.
New York où le paradoxe occidental inscrit dans la pierre, dans le béton, dans l'eau et dans la verdure aussi, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Merci beaucoup, non seulement d'être venu, mais d'avoir réalisé ce numéro, Valérie Lyon, car c'est un cadeau que vous faites. C'est pas seulement un guide, c'est pas un viatique de New York que vous proposez, c'est carrément un sésame. Alors, si vous voulez, comme Nicole Bacharan, vous plonger dans la culture américaine et new-yorkaise, eh bien, le mieux, c'est d'aller voir du côté de ce numéro de l'Express, qui est en vente actuellement et qui
va
rester dans les kiosques un certain temps.
Pour 3 mois.
Parfait, merci beaucoup. Et je voulais signaler particulièrement un très beau papier de Jean-Sébastien Stély sur le lieu mythique entre tous de Times Square.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Audrey qui, via la page Facebook de l'émission, se demande d'où viennent les appellations des 4 points cardinaux nord, sud, est et ouest.
Ça, c'est une des questions les plus intéressantes qui nous ait été posée depuis longtemps. Car, pour tout vous dire, je me suis rendu compte moi-même que les noms de ces points cardinaux, on parle de points cardinaux en France depuis le règne de Louis XIV, les noms sont issus du vieil anglais, figurez-vous. Et tout ça remonte à peu près au milieu du XIIe XIIIe siècle. Le mot « nord » qu'on trouve dans les Normands, les Northmen, n'est-ce pas ? C'est la vieille racine « nord » qui désigne l'étoile polaire. Autrefois, en France, on ne parlait pas de « nord », du reste, on parlait du septentrion. Quant au sud, on ne parlait pas de sud non plus. Autrefois, on disait le midi. Et d'ailleurs, on a dit le midi quasiment jusqu'à la fin du 18e et même au début du 19e siècle. On ne se met à parler de sud que plus tard. Et sud, eh bien, c'est la déformation de l'ancien anglais « south » qui a donné d'ailleurs « south » dans l'anglais moderne. Le radical « su » est probablement lié à la racine indo-européenne « su » qui désigne le soleil. Donc vous voyez, le nord, le sud, autrefois c'était le midi et le septentrion, et ce sont des racines tout à fait anglaises, en quelque sorte, ou nordiques. Même genre de remarque pour ce qui est de l'est. L'est, c'est la direction du lever du soleil. C'est emprunté directement à l'anglais east, qui autrefois s'écrivait hust, c'est-à-dire H-E-S-T. Quant à l'ouest, qu'on écrit, nous, O-U-E-S-T, depuis 1379 tout de même, autrefois, au XIIe et au XIIIe siècle, ça s'écrivait « ouest » avec un W, et c'est le mot carrément anglais. Alors c'est directement, ça vient du « wesper » latin, lui-même tiré du grec « hesperos », qui désigne le soir, car c'est la direction du coucher du soleil, bien entendu. Alors nous n'avons, nous, que quatre points cardinaux. Vous savez que dans certains pays, dans certaines civilisations, on en ajoute un cinquième, qui est le point du centre, en quelque sorte, en Chine. Par exemple, le centre s'appelle Zhong.